RFI.fr.
Micro. Micro. Microscopie. Suite. Suite. Microscopie. Suite. Édouard Zambo.
Retour donc dans Microscopie, hein, pour la suite de cette émission consacrée au maigre bilan, il faut bien le qualifier, dont peuvent se vanter, hein, les partis politiques en matière de diversité des candidats pour les élections municipales qui auront lieu, je vous le rappelle, dans 15 jours en France. Hein. Pour nous accompagner dans notre réflexion, nous sommes évidemment toujours en compagnie de Patrick Lozès, le créateur et président du Conseil représentatif des associations noires de France, que vous connaissez bien sur RFI, le CRAN donc, qui à l'occasion de ces élections a également mis en place un comité national pour la diversité républicaine de casquettes pour un seul combat. Hein. Avant de reprendre notre conversation, je vous propose d'aller en banlieue parisienne, à Aubervilliers, en compagnie de Faisal Meniac, qui est candidat de la droite pour les élections municipales dans une ville détenue depuis des décennies par la gauche. Autant dire que son combat, lui, n'est pas gagné. Hein. Aline Leclerc l'a accompagné lors de ses rencontres avec ses électeurs. Et pour eux, hein, ses racines familiales au Maghreb n'ont que peu d'importance.
Microscopie, la société au microscope.
Là-bas, vous avez vu mon tract sur la sécurité?
Oui.
Vous l'avez eu?
Oui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je le ferai. Je le ferai parce que ça coûtera zéro rang contribuable, puisque vous avez vu, j'ai bien mis pour le système de vidéosurveillance et l'État qui finance par le fonds d'investissement pour la prévention de la délinquance.
Vendredi, oui. J'étais à la fenêtre.
Oui.
Les gardiens sont arrivés, ils ont fait sortir de la voiture un monsieur donc, qui avait au moins 75 ans, avec un œil de pourtoir. Quelqu'un a essayé de lui prendre sa voiture.
Ça devient insupportable. C'est toujours, ça tombe sur les mêmes. Les personnes âgées, les femmes, toujours les mêmes. Non. Donc je suis Faisal Meniac, je suis à l'UMP depuis, dans la droite, avant RPR et maintenant à l'UMP depuis une vingtaine d'années, je milite. Et je suis le candidat à Aubervilliers pour les municipales du 9 et 16 mars ce prochain.
Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'avoir votre visage comme ça, placardé dans toute la ville et de représenter votre parti?
Alors d'abord un sentiment de fierté par rapport à mon parcours. Je n'ai jamais renoncé dans mon combat à vouloir faire bouger les choses. Et puis aussi un sentiment de fierté de me présenter devant les électeurs, de leur présenter un projet pour la ville et de me dire que je suis un candidat comme les autres, qu'il n'y a pas de différence, que seuls les projets des uns et des autres peuvent faire la différence.
Est-ce que ça s'est fait facilement de s'imposer en tête de liste et d'arriver à ce point-là?
Non, ça s'est pas fait facilement. J'avais la naïveté de croire que ça pouvait se faire naturellement dans les années précédentes. Mais c'était un combat de longue haleine. Mais ça a été encore plus difficile pour moi que pour d'autres. Hein. Quand on s'appelle Faisal Meniac, c'est vrai qu'il y a une partie de vous-même qu'on vous renvoie quand il s'agit de distribuer des places, qui est blessante, qui est frustrante parfois, ne serait-ce que pour apparaître dans une bonne place sur des listes. Mais on m'a toujours sorti que, oh là là, il faut pas faire peur aux électeurs du Front National ou des choses comme ça. Donc, si, j'ai souffert de ça par le passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, en particulier, depuis que Nicolas Sarkozy a pris le parti en main, les choses ont beaucoup évolué quand même. Il y a des gens qui ont certainement voté pour l'UMP qui ne voteront pas pour moi. Parce que je m'appelle Faisal Meniac, c'est clair. Comme il y a certainement des électeurs qui n'ont pas voté pour Nicolas Sarkozy et qui certainement voteront pour moi parce qu'ils me connaissent, parce que je m'appelle aussi Faisal Meniac, peut-être que ça leur parle plus que quelqu'un d'autre, ça existe. Moi, je suis quelqu'un qui croit qu'on ne peut être tête de liste que si on apporte quelque chose d'utile à la ville et aux habitants. Les origines sont pas importantes, à mon sens. En tous les cas, moi, je le présente comme ça. Par contre, il faut trouver les moyens et les outils pour qu'on ne fasse pas barrage à des candidats méritants dans leur section, dans leur ville, et qui doivent être consacrés tête de liste ou candidats aux législatives, etc. Quand ça se vérifie que vous êtes le meilleur candidat et puis qu'on vous dit non, finalement, c'est pas le moment pour vous parce que vous appelez Faisal Meniac, c'est très frustrant et c'est très humiliant même, à la limite. C'est vrai que pour les femmes, il a fallu passer par une loi. Ce serait quand même malheureux de penser que pour la diversité, il faille aussi passer par une loi pour l'imposer.
Vous êtes à Aubervilliers, c'est une ville qui est très ancrée à gauche, voire à l'extrême gauche, donc qui est difficile à gagner pour vous. D'autres candidats issus de l'immigration en région parisienne sont beaucoup dans des villes difficiles à gagner pour l'UMP. Est-ce que vous croyez que ça aussi, ça rentre en ligne de compte sur le fait qu'on vous ait laissé la tête de liste quelque part ?
C'est vrai qu'on est dans des villes difficiles, mais ça reste quand même ma ville. Kamal Hamza à La Courneuve, c'est sa ville. Vous prenez d'autres candidats, c'est leur ville. Aminata à Montreuil, c'est sa ville. Et c'est ça qui est important. Donc on est passé dans une étape d'avancement ou de candidature logique.
Ça fait combien de temps que vous habitez à Aubervilliers ?
Ça fait 15 ans.
Vous allez voter pour M. Ménière, là ?
Oui, oui, sans problème.
Qu'il soit issu de l'immigration, est-ce que ça rentre en ligne de compte pour vous ?
Absolument pas. C'est pas lié à sa naissance, disons, de où il vient. Moi, je dis qu'on puisse changer, faire quelque chose de bien sur Aubervilliers, comme c'était avant.
Ce qui compte pour vous, c'est qu'il soit de l'UMP et qu'il est défendu.
Il faudrait quand même que ça change, hein, voilà. Que ça prenne...
Moi, c'est pas...
C'est important, c'est ce qui est dans la tête et ce qu'on envisage de faire. Et non pas lui où il est né, ça n'a rien à voir.
Moi, j'ai bon espoir de remporter cette élection. C'est ma ville, je me battrai pour ma ville.
Si on a de la chance que ça soit vous qui passez, ça, je sais très bien, vous allez faire beaucoup de choses. Oui, mais malheureusement...
Les sondages sont bons. Faut y croire.
microscopie@rfi.fr
Patrick Lozès, est-ce qu'il faudra, d'après vous, en venir à la loi, comme la loi pour la parité pour les femmes ? Vous êtes plutôt tenant en voie de méthodes un peu scientifiques dans ce combat-là, notamment celle du comptage ethnique, à laquelle vous êtes favorable, enfin des statistiques ethniques, comme on dit.
Que nous appelons statistiques de la diversité, puisque c'est pas des ethnies qu'il s'agit de compter, mais c'est la diversité de ce pays qu'il s'agit de promouvoir. Je crois qu'on en arrivera à la loi. Il y a quelques années, vous m'aurez posé la question, j'aurais dit, laissons les responsables politiques aller, laissons-les essayer d'avancer les choses. Mais il y a quelques minutes, je vous ai dit, j'ai fait la démonstration que, avec la précarité des acteurs, avec le désir des potentats locaux de garder le pouvoir, je crains que nous n'y arrivions pas si rapidement que ça et qu'il faille faire appel à la loi. La loi ne change pas tout, d'ailleurs, puisque pour les femmes, l'Observatoire de la parité... C'est plein qu'il ne devrait pas y avoir plus de 11% de maires, donc je crains qu'il ne faille aujourd'hui en appeler à la loi, mais ça va être un vrai débat, il faut que ça soit débattu à l'Assemblée nationale, que ça soit un débat de société.
Qu'est-ce que vous préconisez ? C'est-à-dire qu'on va faire un statistique ethnique de l'ensemble de la population française, on va se rendre compte qu'il y a 9% de Français originaires du continent africain, 7% originaires de l'Europe de l'Est, enfin je ne sais pas, je donne des chiffres au hasard, et on va panacher ces listes comme ça, chaque tête de liste va dire, alors il me faut mon Arménien, mon Camerounais, c'est tenable ça ?
Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, la mobilisation conduite par Le Cran et par d'autres, ça a servi d'amorce, pourquoi ? Pour montrer qu'il y avait des Noirs de France, comme il y a des Arabes de France, comme il y a des femmes de France, des homosexuels de France. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a enraciné notre présence dans ce pays. À partir de là, vous avez deux dimensions. La première dimension, c'est la composition sociologique de ce pays. Et vous avez une autre dimension, la représentation, notamment politique, de ce pays. Il ne s'agit pas que ces deux dimensions se superposent, mais il s'agit de faire en sorte que, même si elles n'ont pas vocation à se superposer identiquement, mais qu'elles se répondent. Donc, quand on aura des statistiques de la diversité et qu'on aura une idée de la composition, on devra se poser la question, est-ce que c'est normal, s'il y a 10% de diversité, mais qu'il y a 0% dans des villes où il y a de la diversité ? Voilà, il ne s'agit pas de peser au trébuchet, mais de montrer là où il y a des décalages pour que ces décalages puissent être compensés.
Vous préconisez que ces aménagements pour les élections municipales, ils soient faits à l'échelle locale, régionale, départementale ou nationale ?
Ils soient faits à l'échelle départementale et certainement pas à l'échelle nationale, puisque les contours de la diversité sont très différents selon que vous êtes en Seine-Saint-Denis
ou
dans la Beauce ou en Auvergne, absolument. Si aujourd'hui les responsables politiques, notamment locaux, nous font la démonstration que on n'aura pas besoin d'une loi pour avancer, moi je dis banco, laissons ce débat de côté. Mais comme je ne suis pas convaincu qu'ils y arriveront, je veux que ce pays se saisisse de cette question. Et quel meilleur moyen de s'en saisir que l'Assemblée nationale et le débat de société ?
On ne peut pas dire pourtant que la loi pour faire respecter des quotas de femmes était absolument couronnée de succès quand on voit aujourd'hui la représentation nationale. La proportion de femmes a certes augmenté, mais la France reste le plus mauvais élève de l'Europe, à une exception près.
Oui, mais imaginez ce que ça serait sans la loi. C'est pour ça que la loi est incitatrice et la loi évolue. En 99, quand il y a eu l'inscription dans la Constitution du du respect de la parité. En 2000, il y a eu une loi et en janvier 2007, la loi a été durcie et on demandait qu'il y ait une parité par bloc de 6. Mais en 2007, on a demandé une parité shabarabara, un homme, une femme, dans les exécutifs. Et vous verrez que ça se fera. La difficulté aujourd'hui, elle n'est pas tant dans la composition des listes, parce que je crois que c'est 46-54 dans la composition des listes.
C'est dans les positionnements.
Oui, non, mais dans la composition des listes, c'est un homme, une femme, et il peut pas y avoir une différence.
Souvent l'homme qui est en tête,
et c'est ça qui pose problème, c'est la première place, mais il y a une vingtaine d'années, les femmes dans les conseils municipaux, elles étaient pratiquement inexistantes. Aujourd'hui, dans les conseils municipaux, elles sont pratiquement à 50%. Les têtes de liste, c'est encore difficile. Eh ben, moi, c'est ce que je souhaite pour la diversité. Encore une fois, je ne veux aucune contrainte, je veux une incitation, mais une incitation législative, parce que les responsables politiques, ne jouent pas le jeu et qu'ils essaient de contourner la volonté des concitoyens.
Est-ce que le combat de la diversité, c'est pas philosophiquement, c'est un peu provocateur ma question, mais est-ce que c'est pas faire son deuil de l'égalité de fait entre les hommes?
Mais c'est exactement le contraire. Je crois que les citoyens de la diversité, les minorités aujourd'hui, sont les sentinelles de la République. Les citoyens de la diversité sont en train d'appeler ce pays à ce qu'ils se disent que nos valeurs ne seront universelles que quand elles s'appliqueront à tout le monde, y compris aux minorités. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire l'égalité, eh bien, nous la voulons pour nous aussi. La liberté, nous la voulons pour nous aussi. La solidarité, la fraternité, nous la voulons pour nous. Donc je trouve que c'est extraordinaire que ces citoyens aujourd'hui reprennent le flambeau de l'abbé Grégoire, reprennent le flambeau de Olympe de Gouges. Donc c'est formidable ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de faire des Noirs et des Arabes, des Français comme tout le monde. Donc c'est l'égalité à plein.
Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment aujourd'hui de militants politiques noirs, arabes ? Est-ce qu'il y a les ressources humaines issues de la diversité pour prendre cette place que vous revendiquez?
Ah oui, oui. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas sentis réellement concernés par la chose politique. Je dois dire que les partis politiques n'ont pas beaucoup fait pour les, voilà, pour les attirer. Mais
Les personnes issues de la diversité avaient pris l'habitude aussi d'être moins impliquées dans les processus électoraux, de moins s'inscrire sur les listes, etc. Donc ils étaient aussi une clientèle, entre guillemets, moins intéressante pour les partis.
Oui, mais les choses changent et à l'évidence, aujourd'hui, ces citoyens-là ont compris qu'il fallait s'intéresser. Jusqu'à présent, on leur a demandé d'être au bout du système. On leur a demandé simplement d'aller voter. Mais quand vous allez voter, c'est très bien et il faut le faire d'ailleurs. C'est un peu différent que quand vous êtes dans un parti politique. Prenez 100 personnes auxquelles vous demandez d'aller voter. Elles vont faire progresser les choses, évidemment, mais à la marge. Prenez ces 100 personnes-là, vous les mettez dans une section. Vous ne croyez pas que dans cette section, c'est ces personnes-là qui vont élire le délégué de section et qui vont faire en sorte que leurs revendications puissent être entendues, puissent être comprises. Donc c'est beaucoup plus efficace d'aller dans un parti politique que simplement d'aller voter. Et en général, quand on est dans un parti politique, on va aussi voter.
Vous appelez les Noirs et les Arabes à faire de l'entrisme dans les partis politiques, c'est ça ?
À prendre leur place dans la République et à se comporter comme des citoyens de ce pays. C'est toujours comme ça que les choses ont avancé dans ce pays. Ce sont les luttes sociales qui permettent de réduire la différence qu'il y a entre l'idéal d'égalité et la réalité d'égalité. Donc je les appelle à se comporter comme des citoyens responsables.
Il y a une étude qui a été faite par deux sociologues, Sylvain Brouard et Vincent Thiberge, du CEVIPOF, qui est un centre d'études politiques de Sciences Po, très réputé. Et alors, ils ont décidé de tester deux candidats imaginaires. Vous avez certainement entendu parler de cette étude. Guillaume Lachaise et Bilal Yassine, donc deux noms assez connotés. Et à leur grande surprise, en tout cas à la grande surprise de beaucoup de lecteurs, c'est souvent Bilal Yassine qui arrive en tête dans sa capacité à comprendre les préoccupations des habitants. Selon cette étude, présenter des candidats issus de l'immigration élargirait l'électorat tant pour le PS que l'UMP. Et ces deux sociologues finissent leur étude en disant « À l'avenir, l'absence de représentation des minorités visibles ne pourra plus que très difficilement être justifiée par la résistance de l'électorat ». Ne resteront alors comme explication que les pesanteurs oligarchiques, la faible attractivité et le manque de volonté des partis politiques et de leurs dirigeants. Qu'est-ce qu'ils vous disent les dirigeants des partis politiques ?
Ils n'ont pas compris que la demande n'émanait pas uniquement des citoyens de la diversité, qu'elle émanait très fortement, ou en tout cas, ils essaient de résister.
Il semblerait que nos concitoyens soient plus progressistes.
Ils le sont, à l'évidence. Ce qui est en train de se passer dans les partis politiques aujourd'hui, je crois qu'ils ont compris que c'était la dernière fois qu'ils pouvaient, comme ça, avoir des listes monocolores. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Et ils essaient par tous les moyens de conserver, de contourner la demande.
C'est une nuit du 4 août à laquelle vous appelez une nouvelle nuit du 4 août, l'abolition des privilèges.
Mais je demande que l'égalité soit une notion qui soit pleine et entière. Je demande que l'on écoute nos concitoyens. Mais je voudrais quand même, si vous le permettez, au-delà des partis politiques qui ne pourront pas résister très longtemps, aujourd'hui, je crois que les listes monocolores sont tout à fait suspectes, comme les listes exclusivement masculines sont suspectes. Donc on est vraiment en train de vivre un moment d'exception, mais qui est amené par nos concitoyens et qui n'est pas amené par les responsables politiques. Ils devront se conformer à la demande de nos concitoyens. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand nos concitoyens voient qu'il n'y a pas d'hostilité de la part des citoyens de la diversité, alors effectivement leur cœur s'ouvre et ils considèrent les candidats comme étant des candidats comme eux et devant défendre comme tout le monde. Et ça, c'est très intéressant parce que si les choses n'avaient pas évolué aujourd'hui, je crois que c'est parce que nos concitoyens n'avaient pas complètement compris que quand on s'appelle Karim ou Jacques, quand on se présente, on ne se présente pas pour défendre Karim ou Jacques, mais on se présente pour défendre les valeurs de ce pays. Et aujourd'hui, c'est assez clair pour tout le monde, sauf pour les responsables politiques. Il faudra bien qu'ils nous expliquent pourquoi ils n'ont pas compris.
Patrick Lozès, qu'est-ce qui est le plus symbolique pour vous ? La victoire dans un village de Bretagne, il y a 20 ans en arrière, de Kofi Annan, qui était un élu noir d'un village blanc, ou une éventuelle victoire de Karim dans une banlieue française peuplée de beaucoup de personnes issues de l'immigration maghrébine.
Vous m'appelez à dénoncer le communautarisme des partis politiques qui présentent des citoyens de la diversité uniquement dans les villes où il y a de la diversité, alors que moi, ma conception républicaine, c'est celle qui a amené Gaston Monnerville à être élu, c'est ce qui a amené Kofi Annan à être élu dans une ville comme Saint-Coully. Au fond, c'est ça. Moi, je veux que les citoyens de la diversité, ils soient élus partout, ils soient élus dans les villes où il y a de la diversité, comme dans des villes où il n'y a pas de la diversité, parce que quand on est noir et quand on est élu, on n'est pas élu pour défendre les noirs, on est élu pour défendre tous les citoyens d'une même structure. Et c'est ça les valeurs de ce pays, c'est ça que nous défendons, c'est ça que nos concitoyens commencent à voir aujourd'hui, et c'est ça que les partis politiques doivent voir. Il ne faut pas que les responsables politiques continuent à freiner l'éclosion des élites politiques de demain. Pas finir sans parler de ce qui est en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui.
Avec Barack Obama, évidemment.
Il y a Barack Obama, et je demande à François Hollande, je demande à Patrick de Védjian, à François Bayrou de ne pas barrer l'éclosion des Barack Obama français.
Dernière question, Patrick Lozès, puisque c'est dans l'actualité, n'y a-t-il pas finalement aussi parfois un effet pervers à la diversité, et je pense notamment à la polémique qui oppose Ramayad au candidat socialiste, et où elle fait tout d'un coup elle-même, de sa couleur de peau, un argument qui serait intangible, ou parce qu'elle est attaquée, elle dit que c'est à cause de sa couleur de peau, ce qui semble pas tout à fait vrai.
Ramayad est une amie, je ne veux pas l'accabler, mais quand on porte des accusations de racisme, il faut apporter des preuves. Je veux dire que je ne veux prendre position pour personne dans ce qui, je le rappelle,
est une campagne électorale. Électorale et donc de cette. Enfin, y a-t-il pas cet effet pervers ?
Il faut surtout pas se servir du racisme, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut pas jouer avec ça, mais je redis, le racisme n'est ni de gauche ni de droite. Nous, au CRAN ou au Comité national pour la diversité, nous travaillons avec des gens de gauche et de droite qui tous luttent contre le racisme. Donc arrêtons de dire que le racisme est de gauche ou que le racisme est de droite. Le racisme, nous devons tous le combattre.
Puissiez-vous être entendu. Hein. Patrick Lozès, merci en tout cas d'être venu nous rendre visite aujourd'hui dans Microscopie. Pour vos questions, hein, vous connaissez l'adresse, c'est comme d'habitude microscopie@rfi.fr. La semaine prochaine, nous continuerons notre travail autour des élections municipales en France et de l'évolution du profil des candidats. Céline Develay-Mazurel nous fera rencontrer 3 candidats investis dans des villes symboliques des différentes banlieues françaises. Des candidats qui, au-delà de leur diversité de couleur de peau, comme nous en avons parlé aujourd'hui, représentent aussi des diversités sociales. Merci de votre attention. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Malheureusement, aujourd'hui, moi, on me dit t'es candidat de la diversité. Ça voudrait dire que les gens qui me ressemblent votent pour moi. Si c'était une réalité, j'aurais fait dans certains quartiers 60% et dans d'autres 0. Donc moi, je crois que ça ne marche pas, ça. Le candidat de la diversité, j'aurais fait...